faut-il présenter donc Barbara Sicker ? Sans doute pas, mais je vais le faire quand même en quelques mots. Donc, vous êtes philosophe à Bordeaux, je crois, vous enseignez. Vous avez publié des ouvrages sur Nietzsche et la biologie. Ça ne nous éloigne pas tellement du sujet pour l'instant, mais aussi travaillé beaucoup sur l'éthique de la santé. Et puis, plus récemment, vous êtes fait connaître pour une critique assez virulente du libéralisme et de ses dérives. Et puis, vous êtes une philosophe engagée, connue, vous êtes engagée du côté des gilets jaunes contre la réforme. Et d'ailleurs, moi, il y a une question qui me brûlera les lèvres, mais je vous la poserai tout à l'heure, puisqu'on vient de parler des critiques du libéralisme. S'il y a un modèle d'auto-organisation, selon moi, qui existe aussi, qui est alternatif à celui de l'ultralibéralisme, c'est bien celui, je ne sais pas comment l'appeler, l'anarchisme, l'auto-organisation, le modèle à la Castoriadis, c'est-à-dire l'idée que les individus sont capables de construire des sociétés eux-mêmes par des interactions sans avoir recours à des instances supérieures. Et donc, c'est un modèle qui est-il vraiment alternatif ? On aura l'occasion d'en parler. Mais en tout cas, je vous laisse la parole simplement sur ce thème que vous avez choisi, qui est « La philosophie et la haine de la démocratie ».
Merci, merci beaucoup. Merci infiniment pour cette invitation qui me fait très plaisir. Et puis, merci à tous d'être là. Alors, effectivement, j'ai choisi un sujet un peu rugueux, un peu difficile, puisque, comme je vais vous l'expliquer, ce sujet m'oblige à penser contre moi-même, contre ma propre discipline. J'ai rédigé pour venir un petit résumé de la conférence. Vous ne l'avez peut-être pas en tête. J'aimerais repartir de ce travail, puisque je l'ai fait autant qu'on en profite. Voilà, j'ai écrit quelques lignes. Et j'ai dit ceci, ce sera mon introduction, nous sommes dans une situation paradoxale. Partout et en tout temps, je pense dans notre ère culturelle, européenne, américaine, etc., nord-américaine, nous nous proclamons tous démocrates. Mais si on s'arrête un instant pour réfléchir au sens de ce mot, démocratie, démos, kratos, démos, ça veut dire le peuple, kratos, le pouvoir, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Alors, dès qu'on s'arrête sur le sens de ce mot, le scepticisme, soudain, nous envahit, tous. Le peuple qui serait au pouvoir, le peuple qui dirigerait, vraiment. Le pays n'est-il pas trop grand? Les passions de la foule ne sont-elles pas dangereuses? Les questions du monde ne sont-elles pas trop complexes? Puisque c'est le sujet. Le peuple n'est-il pas même le plus dangereux des tyrans? Toute notre tradition de pensée, venue de Platon, le prince des philosophes, adversaire résolu de la démocratie, toute notre tradition de pensée résonne en nous, venue de Platon, mais aussi d'Aristote, qui disait dans Les Politiques qu'il ne fallait croire qu'au régime mixte, la bonne politéia, et qu'il fallait absolument éviter la démocratie, qui est la domination des pauvres. Donc, aussi bien Platon qu'Aristote, ou que les tenants libéraux du gouvernement représentatif, tous ces gens alimentent notre démophobie. Je pense que nous sommes foncièrement démophobes. Peur du peuple, phobie du démos, phobie du peuple. Nous enfermant dans une véritable névrose, c'est-à-dire que d'un côté, nous nous proclamons tous démocrates, et de l'autre, nous n'y croyons pas. Brandissant sans cesse la démocratie en étendard, sourdement, nous la craignons, nous la suspectons, nous nous demandons si ce ne serait pas le plus dangereux des régimes. Une fois ce diagnostic posé, quel chemin emprunter ensemble? Faut-il renoncer à la démocratie ou espérer qu'elle advienne? Cette dernière hypothèse implique, à mes yeux, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer, une autre condition, celle d'une transformation profonde de la philosophie. Alors, effectivement, j'ai un parti pris pour la démocratie. Je vous le dis d'emblée, hein, je vous abats les cartes, je ne vais pas vous faire des mystères ou des cachotteries. Je suis pour la démocratie, mais je pense que c'est une hypothèse, la démocratie, la possibilité d'un régime dans lequel le peuple serait au pouvoir, et c'est une hypothèse dont moi j'ai jamais vu le début du commencement. Puisque nous sommes actuellement dans ce qu'on appelle indûment une démocratie, mais qui est en fait un régime électif, dans lequel quelques-uns, des élus exceptionnels, s'exceptent du peuple parce qu'ils sont exceptionnellement sages exceptionnellement vertueux, exceptionnellement compétent, et vous riez parce qu'en fait, ce régime électif, il est en train de s'effondrer. Il est en train de s'effondrer sous nos yeux, puisqu'on a plutôt des gens exceptionnellement incompétents, exceptionnellement malhonnêtes et exceptionnellement peu vertueux. Donc, on est dans une situation où ce qui s'est appelé le régime électif contre la démocratie, ça s'est appelé le gouvernement représentatif. Le but, c'était d'éviter le risque démocratique. Pendant les révolutions atlantiques, révolution américaine, révolution française, le nouveau mot d'ordre, c'était démocratie. On a répondu non, surtout pas. Il nous faut des élus, des gens qui s'acceptent du peuple, qui dirigent le peuple d'en haut et auxquels le peuple va déléguer son pouvoir. Ça, c'est notre régime. C'est le gouvernement représentatif, c'est le régime électif. Il a marché pendant 2 siècles. Il a très bien marché. Quand j'étais jeune, ça marchait très bien. Tout le monde y croyait. Moi-même, je croyais que c'était la démocratie. Et puis, on a découvert petit à petit que ça avait été un détournement de sens et que la démocratie, ce n'est pas ça. La démocratie, c'est le démos, le peuple. Et le peuple, c'est pas, ça rejoint le propos de tout à l'heure, ça n'est pas un agrégat d'entités simples. C'est une complexité. C'est une complexité, c'est un acteur vivant et complexe qui n'est pas la somme de tous les atomes individuels. Et donc, ce peuple, est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il est possible? Est-ce que c'est une fiction? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une réalité socio-historique? Voilà le genre de questions que je me pose dans mes recherches. Et je réponds oui, c'est une réalité intermittente, mais par moments, le peuple agit, il se lève, il reprend le pouvoir, ou il essaie de reprendre le pouvoir, et il marque des points historiquement. Par exemple, grand exemple, la Révolution française, où surgit un nouvel acteur politique qui n'existait pas avant, le peuple. 1789, 14 juillet, hein, c'est vraiment le surgissement du peuple. Avant, on avait une population, on avait des sujets, mais on n'avait pas de peuple. Autre exemple, Athènes, la démocratie athénienne, où pendant 2 siècles, le démos athénien se réunit sur la colline sacrée de la Pnyx et à 6 ou 10 000 délibère avec lui-même pour les 100 000 citoyens et prend des décisions sur son destin sans aucun chef, sans aucun tyran, sans aucun président de la République, sans aucun roi. Et ça va durer 2 siècles. Donc ça montre bien que le peuple est une réalité socio-historique, mais c'est une réalité extrêmement complexe à penser et qui implique toute une série de conditions. Ça ne va pas de soi. Alors, une des conditions très difficiles, c'est que pour penser le peuple et pour penser le kratos du démos, la démocratie, il faut penser contre la plus grande tradition de pensée de notre ère culturelle, l'Occident, à savoir la philosophie. Il faut que vous sachiez que la philosophie, c'est la discipline reine. Je ne vous le dis pas parce que je suis philosophe, c'est une réalité dans le rapport des forces entre science et entre savoir. La philosophie, un peu comme la physique en sciences dures, c'est la discipline reine de toutes les disciplines. Et c'est une discipline foncièrement démophobique, qui déteste le peuple et qui déteste la démocratie. Je voudrais commencer par vous montrer ça, ce qui crée en nous une véritable névrose, parce qu'on est biberonné à quoi quand on commence à penser à l'allégorie de la caverne de Platon, qui est une allégorie antidémocratique. De Platon à Nietzsche, la démocratie apparaît comme un phénomène pathologique, comme quelque chose de monstrueux. Alors on a quelques exceptions rares, on a quelques timides textes de Spinoza qui restent à élucider, on a un certain Marx à l'époque de la Commune, pendant quelques semaines. On a John Dewey, qui a été cité tout à l'heure, qui veut être absolument un philosophe démocratique, qui est vraiment une sorte d'apax. Et puis on a, il en a été question dans la première question qui m'a été adressée, Cornelius Castoriadis, ce philosophe grec complètement iconoclaste et qui n'est toujours pas au programme de l'agrégation. Donc, si vous voulez, à part quelques exceptions, quelques marginaux, et je parlerai de Rousseau, foncièrement, les philosophes sont dans une haine de la démocratie. Et je vais me concentrer sur Platon, le prince des philosophes. La grande opposition de Platon, c'est la doxa versus le logos. Pourquoi vise-t-il tout le temps la doxa? La doxa, vous en avez peut-être entendu parler en terminale, hein, c'est l'opinion commune. C'est vraiment ce que vise Platon. C'est l'ennemi à abattre. Et c'est cette opinion commune, cette doxa, à laquelle il oppose le logos. Qu'est-ce qui distingue le logos de la doxa? La doxa, elle est du côté de la pluralité, précisément de la complexité. Elle est pleine de plis. Complexe, ça veut dire littéralement, en latin, plein de plis. Elle est pleine de plis, c'est une sorte de millefeuille, une pluralité multiple et en devenir. Elle est mouvante, elle est fluide, elle est plurielle, alors que le logos, il est un et stable. Parce qu'il saisit l'unité et la permanence. Et c'est précisément ce que nous raconte l'allégorie de la caverne. Figure-toi des hommes qui croiraient que la réalité, c'est la réalité de la doxa, c'est-à-dire un monde en mouvement, fluide, pluriel, changeant. Ça, c'est la démocratie athénienne. Et ça, nous explique Platon, c'est un jeu, un théâtre d'ombre. C'est un théâtre d'illusions, agité par les démagogues de la cité, qui manipulent la foule. Et en réalité, la vraie réalité, elle est dehors, dans le monde des idées, dans le monde de la lumière, où tout ce qui est véritablement est un. Donc, cette image, on dit souvent le mythe de la caverne, ce n'est pas un mythe, hein, c'est une allégorie, c'est une fable inventée par Platon, une sorte de cinéma. Ce cinéma, ça a pour but de discréditer la démocratie athénienne. Il faut que vous le compreniez bien. Or, quand on enseigne l'allégorie de la caverne, on ne le dit jamais. Jamais. On enseigne toujours l'allégorie de la caverne comme une fable émancipatrice, mais on nous dit jamais que c'est une machine de guerre idéologique contre la démocratie, quand même. Ce serait la moindre des choses, par honnêteté, de nous le dire. Moi, je l'ai découvert très tardivement, en fait. Donc, ça montre comment j'ai été déformée quand j'ai été formée par la philosophie. Là, autre exemple chez Platon, le dialogue du Ménon, que vous connaissez peut-être, où il essaie de montrer ce qu'est la philosophie. La philosophie, nous dit-il, c'est une anamnésis, une réminiscence. Il s'agit de se ressouvenir de l'essence des choses qu'on a oubliées, mais qu'on a tous déjà contemplées. On aurait une âme qui a déjà vu les idéalités de l'ordre du logos, et qui aurait déjà vu l'essence des choses, ce qui fait que le monde est un et qu'il a une unicité. Donc on aurait tous vu, par exemple, l'essence de la vertu, mais on l'aurait oubliée, et on se perdrait dans une pluralité de vertus. Voilà, et c'est ce que fait l'interlocuteur de Ménon quand on lui demande qu'est-ce que la vertu. Il dit la vertu du général, c'est ça, la vertu du père de famille, c'est ça, la vertu du roi, c'est ça. Et il nous donne une pluralité de vertus, une multiplicité. Or, pour Platon, l'être est un, et il n'est certainement pas multiple. Donc il faut revenir à ce qu'est la vertu dans son être, et ce qu'elle est dans son unicité. C'est ce qu'il appelle l'eidos, l'essence de la vertu. Il faut conduire une eidétique, et il faut se débarrasser de la pluralité. Et donc, il faut se débarrasser de la démocratie, parce que la démocratie se tient dans une pluralité irréductible. Quel est le monde que Platon veut abattre ? C'est le monde tragique. Il le dit, il veut mettre les tragiques hors de la cité. C'est le monde de la tragédie, dans lequel la pluralité est indépassable. Et le monde qu'il veut abattre, c'est le monde de la colline sacrée de la Pnyx, où une pluralité débat de manière indéfinie avec elle-même, sans qu'il y ait jamais une unité fixe qui s'en dégage. C'est ça, la démocratie. La démocratie, c'est un monde dans lequel aucune certitude fixe n'est jamais conquise. Si vous dites « si » à la loi, je vous répondrai « vous êtes complètement victime de ce qu'on appelle aujourd'hui en droit l'effet cliqué ». C'est-à-dire que vous croyez que quand une loi est votée, on ne peut pas revenir dessus. Ça, c'est une déviation du droit contemporain, ce qu'on appelle l'effet cliqué. En réalité, une loi est faite pour être discutée, refaite et défaite. C'est d'actualité, on en est censé revenir sur la réforme des retraites. C'est ça la démocratie. C'est un monde dans lequel ce qui a été voté par la loi peut être défait par une nouvelle loi. Et ça, c'est un monde que Platon ne supporte pas. Parce que ce qu'il cherche, lui, c'est un monde de la permanence, de la fixité, de l'unicité, de l'éternité. Alors, c'est ce qu'il vise à travers la doxa, c'est la formule « il a semblé bon au démos ». Dans cette formule canonique de la démocratie athénienne, après une longue délibération, « il a semblé bon au démos », je traduis « il a semblé bon », un peu comme Castoriadis, je traduis le verbe « dokeo ». Il semble qui a donné le mot doxa. En fait, la démocratie, c'est une suite de doxa. C'est une série indépassable et indéfinie de semblances. Il n'y a jamais de vérité absolue qui soit détenue par quiconque, et encore moins par un chef. c'est un monde d'immanence absolue. Et ce que ne supporte pas Platon, c'est ce qu'ont pensé les tragiques, qui étaient des vrais philosophes, à mon avis. Je suis d'accord avec Nietzsche. La philosophie, elle s'est jouée à l'époque de la tragédie grecque, avant Platon, à l'époque pré-platonicienne. Et ce qu'ont dit les tragiques, c'est que la réalité était toujours en excès sur le logos. Le logos, le discours, la pensée logique, elle est toujours beaucoup trop simple par rapport à la réalité qui, elle, est complexe, pleine de plis, qui, elle, ressemble à un millefeuille, à un flux absolu, dans lequel rien n'est jamais stable et dans lequel tout s'entrepénètre. Et aucun discours ne peut enserrer cette réalité absolue. Donc chaque discours est toujours provisoire et doit toujours être déformé par l'épreuve de ce réel. Et ça, c'est la pensée tragique. L'idée que tout logos est toujours excédé par la réalité du flux absolu. C'est l'expérience que Nietzsche appelle dionysiaque, l'expérience du dieu Dionysos, qui est le dieu de la tragédie, le dieu du théâtre, et qui, à mes yeux, est aussi le dieu de la démocratie. On ne le dit pas souvent, mais je crois que c'est le cas. Alors, j'en viens à un deuxième moment de mon exposé, qui est Nietzsche. Nietzsche, en ayant pensé tout ça, en ayant pensé le tragique, en ayant pensé contre Platon, on aurait pu espérer qu'il arrive à penser la démocratie. Eh bien, pas du tout. Au contraire, il a bien montré que la philosophie, comme métaphysique, s'était constituée par ressentiment contre le flux absolu du devenir, et par ce ressentiment de l'un et du permanent contre l'impermanence du flux. Ça, il l'a très bien montré. Mais il a haï à son tour la démocratie. Et c'est vraiment les deux philosophes qui m'ont formé, hein, c'est Platon et Nietzsche, donc j'ai vraiment été formé par des antidémocrates. C'est pour ça que je vous dis que je suis obligée de, quand je prends parti pour l'hypothèse démocratique, je suis obligée de penser contre ma propre formation. Et il a posé en principe qu'il fallait valoriser les exceptions, c'est les grands individus qui s'exceptaient du peuple, et que le peuple était une masse grégaire qui nivelait tout et qui tirait tout vers le bas, au fond. Le peuple, dit-il, c'est une entité grammaticale complètement fictive qui serait le fruit du ressentiment. Ce serait le ressentiment contre la domination. Quand on dit le peuple, ce serait parce qu'on déteste le pouvoir, qu'on déteste les rapports de force et qu'on veut qu'il y ait une entité qui annule la domination. Ce serait un délire de la grammaire. Le sujet peuple annulerait la domination. Ce serait une sorte de vengeance imaginaire. Et c'est pour ça que le peuple s'exciterait sans cesse sur des effigies. Hein, la figure de Macron ou la guillotine en carton, vous voyez, ce serait typique du ressentiment. C'est une vengeance imaginaire, purement intellectuelle. Mais ce n'est pas un vrai rapport de force. C'est juste un règlement de compte grammatical. Voilà comment Nietzsche fait le sort qu'il réserve à la notion de peuple. Et pour lui, le peuple est à la fois une fiction, qu'il dévalorise totalement. Et en même temps, il est un peu en contradictoire parce qu'il décrit le peuple très souvent comme une réalité. Il oscille, en fait, entre l'idée que le peuple serait une fiction du ressentiment et l'idée un peu contradictoire que ce serait une réalité. Et il appelle ça la masse. Et il présente cette masse comme un rouleau compresseur qui détruit, écrabouille les exceptions qui sont fragiles. Du poids de la doxa, de l'opinion. Et là, on voit son point commun avec Platon. Là, on voit son platonisme, en fait. Alors, il y a une exception dans cette histoire. Il y a plusieurs exceptions. Il y a l'exception Spinoza, sur laquelle je ne parlerai pas, en grande partie par manque de compétences, mais c'est un des auteurs sur lesquels je dois travailler. Il y a les exceptions récentes, Dewey et Castoriadis, qui sont vraiment très marginales. Mais sinon, en plein milieu de l'histoire de la philosophie et de son histoire canonique, il y a l'exception Rousseau. Qui semble quand même être un démocrate, semble-t-il. C'est ce qu'on dit souvent. Rousseau, c'est la démocratie. Bah, écoutez, c'est pas si clair. Hein. Je vais vous citer quand même Le Contrat social, livre 3, chapitre 4, et je crois que ça réglera assez vite la question. Je vous le cite. « Apprendre le terme dans la rigueur de l'acception, donc apprendre le terme dans son sens rigoureux, il n'a jamais existé de véritable démocratie. » Il n'a jamais existé de véritable démocratie. Pas très sympa pour Athènes, quand même. Et il n'en existera jamais. Donc, on voit bien que Rousseau, il le dit clairement dans cette phrase, ne croit pas en la démocratie comme un régime possible. Il y a plein de raisons à cela. Une des grandes raisons, c'est qu'il donne au législateur, dans le contrat social, une place absolument centrale. Le nomothète, celui qui apporte le nomos. Et le législateur n'est pas le peuple. C'est un autre personnage que le peuple. Même si le peuple a un rôle très important dans le contrat social, le législateur est un grand personnage à côté du peuple, au-dessus de lui, quelque part, dans la législation. Alors, on a Dewey, John Dewey, qui nous dit « je suis philosophe et je veux la démocratie ». Simplement, il nous dit aussi ceci, dans « Démocratie et éducation », l'idée, la démocratie est une idée et elle n'a jamais encore existé. Là encore, ce n'est pas très sympa pour Athènes. En fait, il y a une ignorance foncière des philosophes pour Athènes, et quand ils connaissent Athènes, Platon, il est dans la démocratie athénienne, c'est pour la haïr. Donc, vous voyez, on est quand même très mal disposé avec cette discipline, la philosophie, pour penser la démocratie. C'est quand même très compliqué. Parce que soit on connaît la démocratie quand on est philosophe et c'est pour la haïr, soit on aime la démocratie, ce qui est très rare quand on est philosophe, et on ne connaît pas Athènes. C'est un double handicap, c'est contre ce double handicap que je lutte en, et je voudrais rendre ici hommage à Christophe Pébart, en lisant et travaillant avec Christophe Pébart, qui est historien de l'histoire grecque, et tout particulièrement qui est un très grand historien de la démocratie athénienne, qui se situe d'ailleurs dans le sillage de Cornelius Castoriadis. Donc on a écrit ensemble ce livre, Démocratie manifeste, dans lequel j'expliquais déjà que la philosophie a une véritable haine du peuple, est une démophobie, et qu'il faut penser en philosophie, contre la philosophie, pour penser la démocratie. Alors, contre toute la tradition philosophique, contre de Platon à Nietzsche, je crois qu'il faut promouvoir l'Athènes tragique, ce que j'ai essayé de faire rapidement, parce que je ne voudrais pas monopoliser la parole, je voudrais qu'on ait le temps de discuter. Cette idée que le réel est toujours en excès sur n'importe quel logos. Ça, c'est hyper dur à accepter. Parce qu'on a cette tentation d'avoir un logos, c'est-à-dire, par logos, vous pouvez traduire par discours, théorie, science, connaissance, savoir, parole. On a toujours ce fantasme qu'on va avoir un système, une théorie qui va saisir le réel dans sa complexité. Ce que nous dit l'Athènes tragique, c'est que c'est irrémédiablement impossible. Tout logos est une stabilisation fictive, est une stase, une stabilisation fictive et provisoire du flux absolu du devenir qui, lui, est infiniment complexe. Alors, à partir de là, on peut s'asseoir et pleurer et se dire ça ne sert plus à rien de parler. Si, justement, et c'est ce que Nietzsche explique très bien dans sa Naissance de la tragédie, Dionysos, le dieu du flux absolu, veut Apollon, le dieu du logos et de la délimitation stable. Donc, le flux absolu, il appelle un effort de délimitation, mais ces délimitations qu'on va faire par le logos, par la parole, par le discours, par la loi, par le nomos, seront toujours des délimitations et des stabilisations provisoires qu'il faudra toujours remettre en cause par la puissance précisément multiple, fluente, en devenir du démos. Excès donc de la doxa, pluriel et provisoire, sur le logos figé, parce que la doxa, c'est un logos, vous me suivez, puisque c'est une opinion, donc ça se déploie dans l'ordre du logos. Mais ça a comme supériorité par rapport au logos type platonicien, de reconnaître son caractère provisoire et le fait qu'elle est en retrait sur la pluralité, et qu'elle n'est qu'une portion, qu'un extrait simplifié d'une complexité beaucoup plus grande. Donc l'opinion reconnaît son caractère provisoire et situé. Et c'est en ça qu'elle est beaucoup plus puissante que le logos de la métaphysique platonicienne ou de la science qui prétend saisir être un savoir absolu. Donc on est avec la démocratie dans un régime de pure immanence, il n'y a plus de transcendance, il n'y a plus de point fixe au-delà du devenir, qui serait Dieu ou qui serait l'idée de l'idée ou qui serait ce que saisit le logos, sur lequel on pourrait s'appuyer pour dire ça c'est la vérité. Non, il n'y a plus. Il y a une pluralité irréductible et que ça nous plonge dans un régime d'incertitude absolument irréductible, je le disais à l'instant, qu'on ne pourra jamais dépasser. Donc c'est ça qu'il faut endurer. Il faut être dans une posture tragique pour être démocrate, pour accepter la démocratie. Et je vous assure que si vous faites cet examen de conscience, vous verrez que vous n'êtes peut-être pas démocrate parce que vous voulez un savoir absolu. Et donc, vous voulez des chefs qui maîtrisent ce savoir absolu qui, par ailleurs, n'existe pas. Ce qui est donc une véritable lubie. Moi, je suis pour les fictions, mais je suis contre les lubies. Voilà. Alors, ce que je crois, c'est que penser la démocratie, ça nous oblige à achever la métaphysique, à s'en débarrasser définitivement, à se débarrasser des idoles de la métaphysique, et ça nous oblige à accomplir la crise de la métaphysique et la fin de la métaphysique en philosophie politique, ce qui n'a pas été encore vraiment fait. Parce que notre philosophie politique, elle est encombrée d'idoles métaphysiques. C'est ce que j'ai essayé de montrer à l'instant. Ce qui nous permettra de passer de la démophobie initiale de la philosophie à une démophilie qui serait assumée philosophiquement, je crois que c'est possible, mais pour cela, il faut que la philosophie se transforme fondamentalement, de fond en comble, et qu'elle revienne à une critique de ses propres débuts. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Donc, la règle du jeu que j'ai rappelée tout à l'heure, mais vous n'étiez pas là, je commence par poser quelques questions que nous donnons à la salle. Alors d'abord, quand vous avez commencé en disant « nous sommes tous démocrates, mais on se méfie quand même du peuple », je vous avoue que je me suis reconnu un petit peu. Donc, je partage ce point de vue-là. Je partage également l'idée que les philosophes n'ont jamais été des grands modèles de défenseurs de la démocratie, à commencer même avant Platon par Socrate lui-même, qui était profondément antidémocrate. D'ailleurs, il avait peut-être un peu raison de se méfier, puisque c'est bien une démocratie qui l'a condamné à mort. Alors ensuite, on pourrait citer bien d'autres philosophes, mais effectivement, au XXe siècle, Heidegger était nazi, Sartre était compagnon du communisme. Bref, on en a peu, à part effectivement Rousseau. Moi, ce qui m'inquiète quand même un peu, même si je rends hommage à votre autocritique en disant « toute notre tradition est anti-démocrate », mais tournons la page, réformons la philosophie, je crois au peuple, mais je ne l'ai jamais vu. Donc ça veut dire qu'il faudrait s'en remettre à une démocratie imaginaire, à un peuple imaginaire, qui enfin réglerait les questions. Alors vous n'avez jamais vu de démocratie, mais vous citez quand même Athènes. À ma connaissance, Athènes n'est pas une démocratie. À Athènes, il y avait, dans la cité-état d'Athènes, au temps de Socrate, vers l'an 400, il y avait 400 000 habitants, il y avait environ 10 à 15 000 personnes qui se rendaient à l'agora. Les femmes en étaient exclues. C'est la moitié de la population. Les esclaves en étaient exclus, car c'était une démocratie esclavagiste. Les étrangers, ceux qu'on appelait les métèques, en étaient exclus. Les jeunes gens de moins de 21 ans, qui n'étaient pas citoyens, en étaient exclus. Cette démocratie-là était donc esclavagiste, elle était guerrière, elle menait des offensives contre les autres cités ou dans d'autres régions du monde pour s'approprier des esclaves. Je ne suis pas sûr que ce soit un bon exemple. Si vous en voulez d'autres, il y en a dans l'histoire. Allez voir les Iroquois, c'est un exemple de société plutôt démocratique où les femmes avaient plus de pouvoir, où il n'y avait pas d'élus et de grands chefs qui étaient distincts, où il y avait un échange par certes les chefs de famille, mais où chacun avait sa voix. Allez, si vous ne connaissez pas de démocratie, allez dans les communes locales, dans les petits départements, il n'y a pas de grand chef. Un maire d'une petite commune, ce n'est pas un élu qui est au-dessus des citoyens et qui détient une doxa. Il discute avec ses citoyens, avec ses collègues, tout le monde le connaît, ça, et c'est un dur métier. L'exemple que vous prenez de Rousseau, c'est pas une démocratie parfaite, mais c'était la Suisse qui prenait comme exemple. Est-ce que c'est un modèle de démocratie? Donc moi, la question que je me pose, c'est... enfin voilà, je crois que c'est... Mes deux questions sont claires.
J'ai compté sept questions.
Ok.
Sérieusement, hein? Alors, je vais vraiment répondre aux sept questions, ça va être dur, mais je vais le faire. Merci d'abord parce que ce sont d'excellentes questions. C'est des questions qu'on m'adresse souvent, je vous le cache pas. Donc je suis un peu rompue à l'exercice d'y répondre, mais je vais recommencer parce qu'il faut inlassablement répondre à ces questions parce que c'est les questions qui se posent. Ce sont les questions qui se posent. Première question, il y a quelque chose de complètement contradictoire à dire « je crois au peuple, mais je ne l'ai jamais rencontré », c'est donc une fiction, une entité imaginaire. Alors, j'ai répondu à cette question de manière un peu brouillonne, mais je vais y répondre de manière beaucoup plus explicite, que ce n'est pas seulement une entité imaginaire, ça a existé historiquement. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un être de raison ou un être d'imagination, ce n'est pas quelque chose de, un produit de mon cerveau, c'est quelque chose qui existe dans ce que j'appelle la socio-histoire. C'est-à-dire que par moment, un peuple s'est levé, s'est auto-organisé, a fait advenir ce que Castoriadis, puisque vous parliez de Castoriadis dans votre première pré-question, a fait advenir l'auto-organisation et l'autonomie, et c'est le démos. Donc le démos, il a existé historiquement. Donc c'est pour ça qu'il est très important de revenir sur Athènes. Alors, deuxième... Alors, Rousseau n'est pas démocrate. Hein. Rousseau, il a une certaine sympathie pour la... C'est un républicain, c'est un strict républicain, absolument, mais la République n'est pas la démocratie. La démocratie peut être une république, on peut avoir une république démocratique et une démocratie républicaine, mais ce n'est pas parce qu'on a une république qu'on a une démocratie. Et Rousseau est un strict républicain, et quand il parle de la démocratie, j'ai rappelé la citation tout à l'heure, il y en a d'autres, du même type, il explique que ce n'est pas possible.
Oui, mais j'entends républicain au sens de, où tout, on peut l'associer à la démocratie, parce que la République au sens de chose publique, en Suisse, qui est partagée par le fait qu'il n'y a pas un État qui est au-dessus de la société et des élus qui seraient complètement distincts des citoyens, et donc on partage ensemble la chose publique et on participe ensemble au vote, aux lois, aux fameuses...
Oui, mais chez Rousseau, celui qui fait la loi, c'est quand même le législateur. Enfin, il y a ce rôle du législateur... qui explique bien, parce qu'il ne croit pas en la démocratie. Donc il faut un législateur, il faut un homothète.
Non, je ne vous parle pas de Rousseau, là, je vous parle du modèle suisse.
Alors le modèle suisse, je peux vous répondre tout de suite. Le modèle suisse, je reviens de la Suisse, qui est un pays qui me fascine justement pour son rapport réel ou supposé à la démocratie. Et une des choses qui est interdite en Suisse, qui est proscrite, figurez-vous, c'est de parler de politique. Il est interdit de parler de politique en Suisse. C'est-à-dire que vous avez des votations, mais vous devez garder pour vous-même, c'est une mentalité de village, hein, en fait, vous devez garder pour vous-même, parce que sinon ça fera des histoires au village, vos idées. C'est l'inverse de la démocratie. La démocratie, c'est la parésia, ça suppose la parésia, c'est-à-dire le courage de dire devant tout le monde ce qu'on pense.
Dans ce cas-là, vous en revenez bien à dire que la démocratie réelle telle qu'on la connaît n'est pas la vraie démocratie, la vraie, c'est celle que vous définissez par vos concepts.
Non, précisément, je reviens à Athènes. Athènes, c'est une expérience socio-historique de la démocratie, et je voudrais argumenter là-dessus. Alors, c'est une démocratie... et ça, je ne lâcherai pas là-dessus, hein, puisque je l'ai quand même écrit dans ce livre qui lui-même répond à un livre qui s'appelle « Athènes, l'autre démocratie », qui est un livre génial de Christophe Pébart, extrêmement précis et documenté, avec la meilleure historiographie et les meilleures archives sur la démocratie athénienne.
Celle de Claude Mossé n'est pas mal non plus.
Claude Mossé est d'ailleurs cité par Christophe Pébart abondamment, parce que Claude Mossé sait très bien. Mais c'est précisément dans le sillage de Castoriadis. Et Castoriadis disait ceci, Castoriadis qui croyait absolument à la démocratie athénienne, il disait la démocratie athénienne n'est pas un modèle, c'est un germe. Ce n'est absolument pas un modèle. Croire que ce serait un modèle, ce serait ridicule. La démocratie athénienne est frappée de toutes sortes d'imperfections, qui sont les imperfections des cités antiques, par exemple l'esclavagisme, par exemple le patriarcat. Donc ce serait complètement ridicule, alors qu'on a fait d'énormes progrès en étant abolitionniste et en étant féministe, de reprendre ces pire que des défectuosités. Hein, voilà, ce serait ridicule. Donc ce n'est absolument pas un modèle. Par contre, c'est un germe au sens organique, c'est-à-dire que ça peut nous inspirer pour nous montrer qu'il est possible qu'un très grand nombre de gens qui ne sont pas les plus riches, oi, ploutoi, qui ne sont pas les oligoïs, les quelques-uns, gouvernent. Et c'est ce qui s'est passé à Athènes. Effectivement, Athènes, vous avez raison, vous avez des chiffres parfaitement exacts, c'était 400 000 habitants. Et c'était, sur les 400 000, il y avait les jeunes, les enfants, les jeunes aussi, puisque ce n'est pas moins de 21, c'est moins de 25 ans, qui sont exclus de la citoyenneté, donc il y avait beaucoup de jeunes, il y avait des femmes, il y avait de très nombreux esclaves. L'erreur serait de croire que l'exclusion des femmes était une condition pour que la démocratie s'exerce. C'est absolument faux. Et l'autre grand contresens, c'est de croire que c'est parce que les esclaves travaillaient que la démocratie était possible. C'est-à-dire que la démocratie, ce serait des riches, oisifs, qui sont allongée, alors pas sur l'Agora, mais sur l'Apnix, à deux visées sur le ciel des idées, tranquillement, pendant que les autres martèlent les matériaux, labourent les champs, et donc l'esclavage serait la condition de cette pseudo-démocratie. C'est complètement faux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les citoyens étaient, dans leur immense majorité, des travailleurs modestes, des laboureurs, des artisans, des gens qui ne parlaient pas un grec extraordinaire, etc., et qui pourtant délibéraient sur les problèmes les plus complexes de la cité. Et les esclaves pouvaient être des gens très riches. Donc il faut se défaire de tous les clichés sur l'esclavage. Ce n'est pas le prolétariat, l'esclavage, ça n'a rien à voir.
Il y avait des banquiers esclaves.
Exact,
et il y avait même des esclaves qui avaient des esclaves.
Et il y avait des fonctionnaires esclaves qui étaient des fonctionnaires extrêmement savants. Bon, très bien. Alors tout ça pour dire que la démocratie athénienne est absolument extraordinaire parce qu'elle nous montre que pendant 200 ans quand même, un collectif énorme, on parle de centaines de milliers de gens, a réussi à s'auto-organiser, à s'auto-diriger.
Non, excusez-moi, c'était environ les chiffres de Claude Mossé. Non, ce n'est pas des centaines de milliers de gens.
Ah si, c'est 100 000 citoyens.
Non, les gens qui participaient à l'Agora sont
alors,
entre 10 et 15 000.
Alors, ce n'est pas l'Agora, d'abord c'est l'Apnix, et, oui, mais... et sur l'Apnix, c'est entre 6 et 10 000 personnes.
Ah, voilà,
je reviens sur l'Apnix. Sur l'Apnix, il y a ce qu'on... Et là, on est dans une logique de représentation. Les Athéniens partent du constat que le grand nombre ne peut pas discuter avec lui-même. Donc ça tombe bien, on a le même problème. Comment on organise une discussion à 60 millions de Français ? Ils ont exactement le même problème. Comment on organise une discussion à 100 000 citoyens ? Ce n'est pas possible. Ils vont résoudre matériellement ce problème. Quand je dis matériellement, c'est au niveau de la voix, de l'audition, de l'échange, etc. En prenant la forme du théâtre, c'est l'esplanade de l'Apnix qui comprend 6 à 10 000 personnes. Ces 6 à 10 000 personnes, ce sont tous ceux qui sont arrivés en premier ce jour-là sur l'Apnix. C'est-à-dire tous les citoyens ont le droit et même le devoir d'aller sur l'Apnix. Tous les citoyens, sans aucune exclusive. Donc la cité n'est pas gouvernée par une oligarchie, par quelques personnages qui seraient des représentants, etc. Elle est gouvernée par le grand nombre qui est une image, 6 à 10 000, qui est une image du encore plus grand nombre des citoyens qui physiquement ne pourra jamais discuter avec lui-même. Mais il y a une discussion qui a lieu pendant 2 siècles, et je trouve que c'est absolument vertigineux. Ils arrivent à faire discuter des collectifs de 10 000 personnes. Et ils ont un art pour les faire discuter entre eux. Donc les gens entrent avec une idée, et grâce à la parésia, grâce à l'isonomia, grâce à toute une série de dispositions démocratiques, les gens sortent avec une idée différente et votent une loi qu'ils n'avaient pas prévu de voter. C'est la doxa. Il a semblé bon au démos. Donc voilà ce que je voulais répondre sur Athènes. J'y tiens beaucoup parce que c'est une des rares expériences socio-historiques de la démocratie que nous ayons.
Ah bah, je me permets de vous interrompre encore une seconde parce qu'on m'indique que dans 8 minutes exactement, on devra quitter la salle. Alors que nous sommes au cœur.
Vous m'avez posé cette question.
Je vous ai posé cette question. Donc je crois qu'on va faire.
Et j'ai juste un dernier élément de réponse. Mais... Pourquoi je ne prends pas l'exemple des Iroquois ou l'exemple de. Tiré de savoir anthropologique très précieux, parce que ce qui m'intéresse, c'est de travailler depuis notre propre histoire. Qu'est-ce que c'est notre propre histoire ? Notre propre histoire, c'est l'histoire de la Révolution française. Nous sommes héritiers de la Révolution française. La Révolution française n'est pas terminée. C'est le début d'un processus. Et l'acteur du peuple s'est levé en 1789 et il peut se relever à nouveau. Les Gilets jaunes, c'est un exemple. C'est un très bon exemple socio-historique d'un peuple qui se lève à nouveau. Cette révolution française, elle n'est pas tombée de la lune. Elle est tombée de l'expérience socio-historique athénienne. Ils ont repris le mot au grec. Donc c'est pour ça que je ne choisis pas mes exemples au hasard. Je choisis mes exemples dans notre propre réflexion sur notre propre histoire. Pas seulement la critique de la philosophie, mais aussi ce que notre histoire a positivement inventé de démocratique.
Ok, je vous laisse continuer parce que malheureusement, il va nous rester 5 minutes. Donc est-ce que... Voilà,
il y a une question
va donner la parole.
Ici, là.
Alors, que des femmes ou des esclaves ?
Là-bas, tout au fond, il y avait une... Voilà, là-bas.
Est-ce qu'il y a une femme qui veut parler ?
Il y a déjà une femme au micro, ça équilibre.
Ah, super.
Bonjour. Ça marche ? Alors, j'ai une question de prof de philo que je voudrais poser. Donc, c'est comment on peut dire tout ça à des élèves de terminale ? Parce que c'est difficile quand même de... Voilà, c'est très intéressé. C'est... Mais je voulais la poser quand même.
Comment vous êtes peut... où ?
Je vous vois à pas. Marseille.
Non, mais je ne vous vois pas dans le public.
Je suis là.
Vraiment, on ne m'a jamais posé cette question et je vous remercie. J'adore cette question. Je la trouve extrêmement juste.
Merci beaucoup, alors.
Parce que ça a un effet de déconstruction. Enfin, arriver dans une classe de terminale et dire « Bonjour, messieurs, dames, nous ne sommes pas en démocratie », il faut quand même le faire. C'est-à-dire que vous êtes obligé de parler contre tous les programmes. Contre le programme d'histoire de première, qui vous explique que la démocratie athénienne est certes une démocratie, mais elle est limitée, et que la nôtre est bien meilleure, parce qu'il y a les femmes, et il y a les immigrés. Ah non, pardon, il n'y a pas les immigrés. Enfin bon, vous voyez, donc tout ce genre d'entourloupe, effectivement, on est obligé de prendre à revers toute la doxa, on revient à ce mot, officielle sur le sujet. Donc c'est extrêmement difficile. Donc je pense qu'il faut être extrêmement... il faut du temps. Voilà, il faut se dire, j'aurai pas suffisamment d'une année, hein, ce sera juste le début d'un commencement. Voilà, mais les élèves, à mon avis, j'en finirai là-dessus parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, sont prêts à l'entendre. Parce qu'en fait, ils ont devant eux deux poutres qui pourrissent. La première, c'est la Ve République, qui est une poutre qui travaille dans le sens du pourrissement. Et la deuxième, c'est le régime électif, qui pourrit sous leurs yeux. Donc je pense qu'au lieu de les laisser tout seuls avec ce pourrissement et les laisser partir tranquillement vers le Rassemblement national, je pense qu'il vaut mieux mettre des mots sur les choses.
Oui, monsieur. Allez, encore une question, c'est
oui,
ça
bon, j'ai une question qui est en apparence simple. Qu'est-ce que c'est pour vous le peuple aujourd'hui ?
C'est pas simple. Oui, alors, est-ce que le peuple est, déjà ? Est-ce que, par exemple, il y a un peuple français ? Ben, je vais être très honnête avec vous, il y a plein de matins où je me réveille, je me dis le peuple n'existe pas, il n'y a pas de peuple. Il y a un agrégat d'individus repliés sur leurs intérêts personnels et sur leur fort intérieur et leurs valeurs personnelles. Ça n'est pas un peuple. Pour qu'il y ait un peuple, il faut un collectif délibérant. Donc ma réponse, elle est assez simple, c'est qu'en fait, par moment, le peuple se relève, se ressoulève. Je vais vous donner un premier exemple que j'ai connu de mon vivant, du peuple français qui se lève et qui se soulève pour délibérer avec lui-même. Sur le mode de la parésia, c'est-à-dire je prends la parole devant tout le monde et j'essaie de dire ce qui me semble le plus vrai, le plus juste pour les autres et pour tout le monde. C'est le moment de 2005, c'est la délibération sur le traité constitutionnel européen. Enfin, je vous rappelle quand même que ce petit traité constitutionnel européen a été un véritable succès de librairie. C'est-à-dire que tout le monde s'est arraché ce texte et a discuté sur ce texte. Quand je dis tout le monde, j'exagère un peu, mais pas loin. On a toutes les parties du peuple de France qui se sont mis à se passionner pour ce texte et à délibérer autour de ce texte. Il y a eu un processus délibératif, il y a eu un vote, et c'est le nom qui est tombé. Et à partir de là, une démophobie de gauche s'est déchaînée. Le peuple est con, le peuple n'a rien compris, le peuple aurait dû voter oui. Quand je dis de gauche, je parlais de Libé, hein, bien sûr. L'éditorial de Serge Julie, qui a expliqué que le peuple était idiot et crétin. S'il existait. Donc voilà, je pense que c'est pour vous dire que je ne crois pas dans une existence assurée, permanente, stable, et finalement qui ressemblerait aux entités métaphysiques de Platon du peuple, mais plus à des concrétions socio-historiques temporaires. Par moments, ça se recristallise, il y a un peuple, il reprend du pouvoir, et puis par moments, il redisparaît dans la masse des individus repliés sur eux-mêmes. Voilà, c'est ce que je répondrais. Mais un sociologue comme Christophe Pébart serait sûrement très mécontent de ma réponse. C'est en réalité plus compliqué que ça.
Eh bien, merci beaucoup, Barbara.
Merci à vous.